Chapitre 6. Dickinson avait volé une bonne partie de la nuit pour rejoindre le massif des Rocheuses. Tout en compulsant quelques dossiers urgents, il n'avait jamais eu besoin de beaucoup dormir. Il avait tout de même trouvé le temps d'admirer le lever de soleil sur les cimes enneigées. Son hélicoptère fut autorisé à se poser dès qu'il s'annonça dans l'espace aérien de la base de Long Crane. Richard sourit en regardant à travers le hublot. Il venait chercher une solution à son problème, mais il rendait aussi visite à un véritable ami. L'engin se stabilisa au-dessus de la place du rapport et descendit à la verticale, soulevant un impressionnant nuage de poussière et de neige. Le vent tourbillonnant fit claquer le drapeau déjà hissé au centre de l'espace. Les recrues qui passaient en rang observaient du coin de l'œil cet appareil civil qui se posait dans leur nid d'aigle. La base était l'une des plus réputées du monde. Seuls les meilleurs éléments des armées de l'OTAN avaient le privilège de venir ici apprendre plus que ce qu'aucun autre corps militaire pouvait enseigner. Les hommes issus de Long Crane étaient attendus dès leur sortie. La plupart intégraient les services de sécurité de la Maison-Blanche ou des délégations diplomatiques. Escorté d'un aide-de-camp et de deux soldats, le général McKenna sortit du bâtiment principal, ce qui valut un garde-à-vous général aux abords de la place. Dickinson sauta de l'hélicoptère alors que les pales tournaient encore. Les deux hommes se donnèrent l'accolade. « Tu ne changes pas, t'inquiète le général. Quand tu as une idée dans la tête, tu ne perds pas de temps. » Les deux hommes s'engouffrèrent dans le bâtiment pour échapper au froid. « Alors voici ton domaine, » dit Richard. « Oui, sur 400 hectares. » McKenna congédia ses hommes et s'engagea avec son ami dans un long couloir dont les murs étaient tapissés de distinctions reçues par l'unité. « 400 hectares pour 800 hommes, c'est du luxe. On ne fait pas de l'élevage, Richard. On forme des hommes capables de tout. Une sorte d'usine à fabriquer les James Bond, » lança ironiquement Dickinson. Au fond du corridor, un planton salua et leur ouvrit l'accès d'un étroit sas qu'ils traversèrent jusqu'à une porte épaisse. Le général la poussa. « Voici mon bureau, » dit-il. « Nous allons voir ce que je peux faire. J'ai fait préparer les dossiers des sections de dernière année. » Dickinson tourna sur lui-même pour parcourir la pièce des yeux. Elle n'avait aucun point commun avec son propre bureau. Aucun luxe, peu d'objets personnels. On sentait que le maître des lieux n'était là que jusqu'à la prochaine mutation. Étonné, Dickinson remarqua « Il y a peu de portes et de gardes pour te protéger. » Sans cesser de trier les dossiers alignés sur son bureau, McKenna expliqua « Une fois entré dans le camp, y circuler est assez facile. Mais si tu n'es pas le bienvenu, c'est presque impossible d'y pénétrer. Si je n'avais pas donné l'autorisation pour ton hélicoptère, tu aurais explosé en vol à 20 km d'ici. » Il releva la tête en souriant. « Charmant !» grimaça Richard. « Encore merci d'avoir donné ton feu vert. » Le général désigna son fauteuil à son vieil ami en lui tendant les dossiers et s'appuya contre le bureau. « Peut-être vas-tu trouver ton bonheur ?»« Voici donc tes meilleurs hommes, » fit Dickinson en attirant à lui la pile de documents. « Ceux qui seront les plus à même de protéger Alexandra. »« Donc les meilleurs, » insista Dickinson. Pendant près de 3 heures, les deux hommes étudièrent les dossiers d'une trentaine d'individus. Tous des athlètes complets, capables de survivre dans n'importe quel environnement, à l'aise aussi bien au fond d'une fosse aux serpents que dans un gala à Hollywood. Les profils psychologiques aidaient Dickinson à choisir. Sur 30, il en sélectionna 4. Un par un, Dickinson reçut les 4 hommes dans un petit bureau jouxtant celui du général. Le premier mesurait à peine moins de 2 mètres. Il était taillé comme un bûcheron, avec un regard d'une grande douceur. La machine de guerre avait encore un cœur, pensa Dickinson. Il invita le jeune homme à s'asseoir et le dévisagea. Cet homme était potentiellement celui qui allait consacrer ses journées à protéger sa fille. Le soldat était calme, à l'aise dans ses réponses, même s'il ne comprenait pas très bien l'utilité de cet interrogatoire bien peu réglementaire. Pendant près d'une demi-heure, Dickinson lui posa les questions les plus déconcertantes, les plus directes, puis il le remercia et passa au suivant. Au 3e entretien, Richard Dickinson se sentait un peu diminué devant ses armoires à glace. Tous étaient de très beaux garçons, à l'évidence intelligent et bien bâti, mais quelque chose lui disait qu'il ne ferait pas l'affaire. Lorsque le dernier s'assit face à lui, Dickinson le regarda avec encore plus d'attention. Il était sa dernière chance, et Richard Dickinson s'en était toujours sorti in extremis. Le jeune homme brun avait un regard direct que même le puissant industriel eut du mal à soutenir. Ses mains étaient longues, fines, il avait des gestes précis, puissants jusque dans les plus anodins. Dickinson et le soldat conversèrent un long moment. Tout en l'écoutant, Richard parcourait des yeux ses fiches d'appréciation. Des résultats remarquables. Peut-être tenait-il enfin l'ange gardien rêvé. Avec celui-là, il resta plus d'une heure à poser des questions. Il n'y avait qu'un seul problème. Dickinson se rendit compte peu à peu. Ce soldat d'élite surpassait tous les autres pour une unique raison, un trait de caractère qui s'était dessiné au fur et à mesure. Richard termina l'entretien la mine dépitée et entra sans frapper dans le bureau du général.
« Eh bien, tu en fais une tête, remarqua McKenna. Aucun d'eux ne conviendra. Même pas le dernier. Vous aviez l'air de bien accrocher, pourtant. »
Cet homme déteste être humilié. Il ne supporte pas d'être rabaissé, n'est-ce pas ? Le général se passa la main sur le menton et dit « C'est un peu le cas de tous mes hommes, mais il est vrai que c'est particulièrement évident chez ce garçon. C'est vraiment un problème ? Alexandra va le traîner plus bas que terre. Elle va lui en faire voir de toutes les couleurs. S'il ne lui colle pas son poing dans la figure avant, il démissionnera en 3 jours. Pour ne rien te cacher, il a déjà démoli pas mal de monde. Il est assez susceptible. Mais d'un autre côté, si j'avais à choisir entre protéger ta fille sur les plages d'Espagne ou le président des États-Unis au Moyen-Orient... » Dickinson se laissa tomber avec lassitude sur une chaise. « Mon pauvre vieux, plaisanta le général. Je crois que tu vas repartir bredouille. » Richard resta silencieux. Le général cherchait quoi dire, lorsqu'il vit son ami relever la tête avec une étrange lueur dans les yeux. « Fais-moi rencontrer ta pire recrue, » fit Dickinson.
« Mais je n'ai que ça, » objecta le général.
« Tu en as forcément un qui n'obéit jamais, qui résiste à tout. » « Nous en avons beaucoup, laisse-moi réfléchir. »«
Aux arrêts !» s'écria Dickinson. « Je veux voir ceux qui sont aux arrêts, en prison !»
Le général pâlit. « Richard, ce n'est pas sérieux. Et puis je n'ai pas le droit. Tu veux, tu es sur une base de la sécurité nationale, bon sang. S'il te plaît, Doug, » insista Richard. « Et puis le tour serait vite fait, il n'y en a qu'un. Tant mieux, comme ça je n'aurai pas l'embarras du choix. » Dickinson se leva. Il avait retrouvé toute son énergie. « Où est la prison ? »